Zelana, maman Gossani.
Tu as 2 jours pour démentir ton article. Sinon...
Je n'ai fait que mon travail.
Fais ton travail. Taylor, fais aussi ton travail.
C'est la presse qui fait emprisonner la presse.
Oui,
elle doit être libre.
Oui, oui. C'est la presse qui fait avancer.
Ben oui.
Mesdames, Messieurs, bienvenue à cette émission spéciale 3 mai, Journée internationale de la liberté de la presse. Ensemble, nous allons voyager de l'Est à l'Ouest du Congo démocratique. Nous irons dans certaines rédactions, dans différents médias. Nous vous ferons entrer dans les coulisses de certaines télévisions, radios et quelques quotidiens pour palper du doigt les réalités du travail des journalistes congolais en rapport avec la liberté de la presse. Cette émission est réalisée, produite et diffusée avec l'appui d'Internews.
Nous nous rendrons précisément au journal Le Souverain, au Sud Kivu et à la radio Maendeleo. Nous reviendrons à Kinshasa pour des portraits croisés, d'abord entre CCTV, Canal Congo Télévision et RTVS1. Feu serait dû à une télévision by satellite, ainsi que le quotidien du groupe L'Avenir et Le Potentiel.
La deuxième partie de cette émission sera consacrée à un débat entre journalistes et représentants des structures de défense d'intérêts des journalistes et des régulations des médias.
Nous aurons alors avec nous Madame Chantal Kanimbo, rapporteure du CESAC, Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, Monsieur Kasonga Chilundé, président de l'UNPC.
Avec nous également un autre journaliste, un journaliste chevronné, il s'agit de Jean-Louis Miasekwama d'Antenna. Je vous l'annonçais, c'est la Journée internationale de la liberté de la presse. Où en sommes-nous en République démocratique du Congo et où allons-nous au regard du paysage médiatique congolais qui est apparemment ou qui apparaît pluraliste, mais avec beaucoup de contrastes.
Aussi, avons-nous échangé avec le porteur de la proposition de loi devant modifier la loi numéro 96/002 du 22 juin 1996 portant modalité de l'exercice de la liberté de la presse en République démocratique du Congo, les députés nationaux Kizito. Sans trop de commentaires, suivons ce reportage.
Je m'appelle Kizito Mushizi Mfundiko. Je suis député national, comme vous pouvez le constater. Et je suis élu de la ville de Bukavu, dans la province du Sud Kivu. Ce projet de loi, cette proposition de loi, je l'ai déposée sur la table du président de l'Assemblée nationale. Et fort heureusement, elle est programmée pour cette session en cours. Elle a été initiée d'abord avec le concours de plusieurs acteurs intéressés au secteur, les professionnels eux-mêmes, et bien sûr le public associé aux travaux de préparation. Et donc j'ai accepté d'endosser cette loi parce que d'abord, ça fait partie de mes préoccupations profondes en tant qu'ancien professionnel de médias, mais aussi en tant que député qui voit comment la législation en matière de médias connaît un retard dans notre pays, qui s'est engagé dans un processus de renforcement de sa démocratie. Et les médias renforcés, professionnellement, financièrement, managérialement, ce sont autant de gages pour croissance de la démocratie dans l'opinion, parce que qui dit médias parle public, parle opinion. Les avantages sont essentiellement les corrections des lacunes qu'il y avait dans la loi de 96. D'abord, la définition même du professionnel des médias. C'était un fourre-tout, on a essayé de mettre des définitions claires qui englobent toutes les catégories de la profession de manière à ce que la profession sache se définir. L'autre réalité qui est une évolution à partir des années 95 jusqu'à présent, c'est les médias en ligne. Les médias en ligne sont aussi pris en compte dans leur complexité, mais aussi dans leur difficulté à faire partie du giron. La proposition que j'ai déposée tient compte de cette évolution-là. En proposant carrément qu'on passe des peines privatives des libertés pour les journalistes, qu'on arrête de mettre les journalistes en prison parce qu'ils ont prétendument commis une faute, mais plutôt que les journalistes soient soumis à des amendes, à des peines pécuniaires. C'est une proposition de loi qui rend moins policière le contrôle du secteur des médias, qui tend même à supprimer le contrôle policier, donc gouvernemental, dans son travail avec les médias.
Prenons maintenant la direction de Bukavu Elle fait partie des femmes des médias qui ont la rage de faire changer les choses. Solange Lucie Coué, éditrice et responsable du journal Le Souverain. Elle a reçu beaucoup de prix internationaux pour son engagement et sa détermination dans son travail, des récompenses en RDC, en Belgique, mais aussi aux États-Unis, qui démontrent sa bravoure et la force de son caractère dans l'exercice de son métier dans une zone en proie aux conflits armés et où les journalistes sont victimes d'assassinats.
Elle est l'une des journalistes qui se distingue à Bukavu, Bukavu, ville-province, qui porte les blessures des conflits armés. Solange Lucie Coué est éditrice du journal Le Souverain. Derrière cette apparence calme se cache une femme qui n'a rien à prouver ni à convaincre au lecteur. Solange s'est forgé une plume, une écriture journalistique qui s'appuie sur des faits avérés et vérifiés. Et sa perception de la liberté de presse en RDC en dit long sur son expérience professionnelle.
Le public a le droit d'être informé et l'information vraie, l'information vérifiée. Moi, je mourrais triste si, à ma mort, je me rends compte que j'ai travaillé toutes ces années en tant que journaliste et que je n'ai pas été capable de réveiller ou bien d'alerter l'opinion sur une question vitale qui peut aider même les générations futures à se sentir mieux dans leur peau comme étant des Congolais.
Le choc, le traumatisme et les conséquences des guerres que les populations de Bukavu subissent constituent un leitmotiv douloureux pour Solange. Elle met alors l'accent sur la sécurité et la protection des journalistes.
Le gouverneur de province avait lui-même dit que même lui était en insécurité, qu'il n'y a personne qui est en sécurité au site Kivu. Et donc au niveau national, même le chef de l'État, il est en insécurité. Alors, si eux, ils sont en insécurité, alors qu'ils ont des bodyguards, ils ont toute une vingtaine de gens qui les gardent, a fortiori nous qui dérangeons, a fortiori nous qui n'avons pas que d'amis, nous qui sommes toujours ciblés. C'est pourquoi, en termes d'insécurité, ici au Souverain, tout le monde vit de manière permanente sous menace et intimidation.
Solange Lucie Coué étonne par sa foi de créer un journal. Ses tactiques de travail sont la détermination, la transparence, l'objectivité, la lucidité.
La presse en République démocratique du Congo doit encore réfléchir. S'il faut organiser encore un congrès de la presse, il faudrait l'organiser pour rappeler à la presse congolaise la charte de Windhoek. Si on est journaliste, combien de fois on ne sera pas heureux de voir qu'on avait travaillé sur un dossier qui a aidé à apporter un changement dans son pays, qu'on avait dénoncé un fait qui a aidé toute l'opinion à être alertée sur cette question et à se lever pour exiger un changement.
Solange Lucie Coué appartient donc à une génération de journalistes qui ont renouvelé l'image de la presse à Bukavu.
Restons encore à Bukavu, cette fois-ci à la radio Maendeleo. Découvrons un journaliste rempli de vie et d'enthousiasme. Je n'en dis pas plus, je vous laisse découvrir.
D'avoir choisi Radio Maendeleo pour cet après-midi.
Sa crédibilité professionnelle l'a propulsé. Taïsi Baguka est rédacteur en chef à la radio Maendeleo. Son parcours est comme un défi de révolte contre l'immobilisme de journalistes qui remplace l'objectivité par le pouvoir destructeur de l'argent. Même s'il ne s'en rend point compte, Taïsi a l'esprit pionnier.
Il y a des informations auxquelles nous n'accédons pas. Ce sont des informations qui cadrent avec la gestion de la province. Tenez, mon frère Bertin, un jour on avait parlé qu'on aurait détourné, il y avait des allégations de l'Assemblée provinciale, comme quoi on aurait détourné 6 millions de dollars au niveau de la province du Sud Kivu. Il nous a été difficile d'accéder à des données qui nous permettent de savoir si oui ou non il y a eu détournement. Et dommage, jusqu'à aujourd'hui, personne ne sait s'il y a eu détournement ou pas. On a suivi les jeux de ping-pong entre l'exécutif et l'Assemblée provinciale. Mais jusque-là, on ne sait pas qui a dit vrai, qui a dit faux. Et je ne pense pas qu'ici, au niveau de la province, nous avons eu un média qui nous a clairement dit que voici la situation, parce que nous sommes également tenus d'éclairer l'opinion sur certaines questions. Parfois, les hommes politiques cachent, mais nous, comme médias, nous sommes considérés comme étant l'aide de la population. Malheureusement, nous n'avons pas accédé à cette information-là.
L'influence de Taïssi Bagouka dans ce média d'information se révèle capitale.
Moi, je suis présentateur des émissions débat. Le problème, ce sont les appels. Ce sont les appels que nous recevons après les émissions. Parce que quand vous avez diffusé une information sensible, tout juste après l'émission, une heure ou deux heures après, ce sont les appels, ou au même moment que vous êtes en train de diffuser. Pourquoi tu as diffusé ça? Pourquoi tu n'as pas attendu? Pourquoi il fallait nous voir avant? Et pourtant, vous avez tenté de rencontrer la personne incriminée et n'a pas voulu. Parce que parfois, on est obligé de diffuser une information avec une seule source parce que l'autre partie a refusé de parler.
On salue l'effort et le courage professionnel de ce journaliste très connu à Bukavu. Bukavu, avec son relief et ses 300 000 âmes, est visiblement un vivier de journalistes talentueux qu'on ne cessera de repérer.
Retour à présent à Kinshasa. Bijou Ndjondji est directeur des informations à la RTVS1. Il est ce trait d'union entre les journaux télévisés et radiophoniques et le bon déroulement dans ce média. Bijou a gravi les échelons pour être aujourd'hui ce point focal à la RTVS1. Pour lui, la liberté de la presse en République démocratique du Congo a encore du mal à se définir, et surtout avec la politisation des médias. Regardez.
Au centre du journal de la RTVS 1, il y a ce personnage. À chaque édition d'information, que ce soit télévisée ou radiophonique, plane l'ombre ou la présence de ce monsieur sous une bannière effacée. Bijou Ndjondji Bateko. Bijou est l'un des acteurs clés à la RTVS 1. Il a enchaîné depuis une douzaine d'années des responsabilités dans les médias avant d'être aujourd'hui à la tête de la direction des informations de cette chaîne de télé et radio. Il est 9h, heure locale.
Voilà, nous passons au sujet d'actualité. Aujourd'hui, nous sommes vendredi.
Au conseil de rédaction, parfois de façon inconsciente, humour et dureté dans les critiques s'y mêlent et s'y côtoient souvent. Séance suspendue. Tout le monde a une tâche à exécuter pour le journal de 19h. Bijou Ndjondji a mené une partie de ses études à Kinshasa et à Mbandaka. Il a reçu un bagage intellectuel approprié. Et sur la liberté de la presse en République démocratique du Congo, il en sait beaucoup.
La liberté de la presse, ce n'est pas en termes de nombre de médias qu'on a en République démocratique du Congo, mais c'est en termes aussi de traitement de ces journalistes. Nous devons être libres. Nous sommes l'oreille et l'œil du peuple. Nous sommes là pour informer. Et quand nous informons, nous ne déformons pas l'information. Nous traitons l'information en toute objectivité. Alors, nous avons quand même droit à un certain nombre de sécurité pour notre travail. Et nous ne le faisons pas seulement pour les opposants, nous le faisons aussi pour le pouvoir.
Entre pauvreté, coupage ou per diem et objectivité, ainsi que désinformation, certains journalistes congolais périclitent ou s'écroulent. Mais seuls ceux qui se veulent professionnels résistent face à ces pressions.
Lorsque vous allez quelque part et cet acteur politique-là vous remet 200 dollars, 300 dollars, alors que dans votre propre chaîne de télévision, on ne vous paye même pas 100 dollars. Vous êtes comme un collaborateur, soit interne ou externe. Vous comprenez? Pour le 300 dollars, même si le type là c'est un ministre qui a détourné de l'argent, vous allez cacher. Antoine Gizenga, lorsqu'il a été nommé premier ministre, je crois en 2006-2007, il a essayé de subventionner la presse. Mais vous savez la suite, c'est 2 millions de dollars américains sont volatilisés jusqu'à ces jours.
Pour garantir vous prendre en charge au cœur de ces listes.
Maintenant, c'est
bon. L'assurance, c'est la sécurité.
Le temps ne se dédouble pas. Il est 19h, l'heure de la grande édition du journal télévisé. Bijou, avec une pleine conscience de l'équilibre des choses dont il croit qu'elles sont précieuses, s'en tient aux normes et veut être alors tout près du régisseur d'antenne. Un journaliste bienveillant, affable, qui constitue le nœud central et le point de conjonction des informations à la RTVS1.
Charlie Bamungu est présentatrice vedette sur Canal Congo Télévision, où elle est également directrice commerciale et marketing. En dépit des pressions, elle affirme ne jamais pouvoir abandonner son métier de journalisme, mais demeure tentée par la politique. Elle entend embrasser la carrière politique pour changer les choses. Suivons.
C'est à travers le regard des autres qu'elle s'est découverte, mais elle se connaissait déjà. Et c'est ce qui l'a d'ailleurs convaincue qu'elle était née pour être journaliste. Charlie Bamungu figure parmi les présentatrices phares du journal télévisé de Canal Congo Télévision. Elle a gravi les échelons et est aujourd'hui directrice marketing et commerciale de ce média.
Je suis dynamique, je manque pas à mes rendez-vous. Lorsqu'il s'agit du journal télévisé, j'ai pas d'excuses. Donc, je suis ici à la rédaction, dans mon bureau, à la direction commerciale depuis 8 heures. Il y a le conseil qui commence à 9h30. J'ai participé au conseil. Je redescends pour essayer de dispatcher le tâche. Donc, je suis en même temps à cheval entre les deux directions et je pense que je suis dynamique et je quitte très tard mon bureau pour rentrer chez moi.
Portée par la volonté de se distinguer et démarquer, cette journaliste, remplie des détails talentueux et attirants, s'interroge sur le rapport délicat auquel, pour elle, les journalistes congolais sont confrontés. La liberté de la presse en République démocratique du Congo.
Liberté de presse en République démocratique du Congo, est-ce que ça existe? C'est vraiment que de nom, hein? C'est vraiment que de nom, je pense. Parce qu'aujourd'hui, surtout nous, qui travaillons, je ne dirais pas nous sommes de l'opposition, parce que le journaliste est apolitique, nous qui travaillons dans les chaînes dites de l'opposition, en tout cas nous sentons vraiment cette pression. Nous n'avons pas cette liberté de traiter l'information comme il se doit, parce que demain, on a peur d'être réprimé, d'être arrêté, d'être poursuivi, menacé de mort, ainsi de suite. Donc je dirais que la liberté de la presse au Congo, il y a encore à faire.
Engagée dans la défense des enfants orphelins, dans les échanges, on découvre avec bonheur Charlie. Elle analyse avec lucidité la situation sociale des journalistes et l'influence négative de la pauvreté des médias congolais sur le traitement équilibré de l'information par les journalistes.
La pauvreté a une grande influence sur notre travail. D'abord, il faut parler de ces phénomènes de coupage. C'est un cachet, il faut qu'on se le dise. C'est un cachet que l'on donne aux journalistes pour avoir couvert tel ou tel événement. Alors, mettez-vous à la place de ces journalistes. Comment arrivera-t-il à traiter objectivement ce papier après avoir perçu ce cachet?
Mais en attendant que le temps change, Charlie Bamungu compose et conjugue avec le présent dans le journalisme. La présentatrice vedette de CCTV serre les dents pour réussir l'exploit futur.
Au groupe de presse L'Avenir, Emmanuel Badibanga est l'homme orchestre de ses quotidiens. C'est le rédacteur en chef du journal. Il commence le travail à 8h et le termine à 23h parce qu'il veille non seulement au grain, mais aussi à ne rien laisser qui puisse heurter les points de vue. D'une manière sincère, Emmanuel Badibanga aborde la question de la liberté de la presse en République démocratique du Congo sans blocage psychologique. Regardez.
Dès qu'il sort de sa maison, il sait qu'il a du pain sur la planche. Entre l'axe qui relie sa commune à son bureau, Emmanuel Badibanga repense à son agenda et se fixe à nouveau les idées. Avant d'atteindre la rédaction du groupe L'Avenir, Emmanuel a su mesurer l'impact de son travail. Partout, les vendeurs des journaux se pointent sur sa route. Le rédacteur en chef du quotidien L'Avenir est conscient du rôle qu'il joue il n'élude pas la question de liberté d'expression en République démocratique du Congo.
Que l'on soit proche du pouvoir, que l'on soit proche de l'opposition, on subit les mêmes pressions. Vous me renvoyez clairement à parler si nous jouissons d'une certaine liberté dans l'exercice de notre profession. Je crois, comme on le dit si bien dans notre pays, les choses avancent, mais nous n'en sommes pas arrivés là. Le journaliste congolais est chaque jour menacé, est chaque jour dérangé. Et il faut le dire clairement et sur tous les plans. Si vous ne l'êtes pas sur le plan politique, vous l'êtes sur le plan social ou sur le plan économique. D'ailleurs, madame, il y a beaucoup de gens qui pensent qu'on parlerait de liberté de presse seulement lorsque vous n'avez pas été interpellé par la police, par les services d'intelligence. Non, mais il y a aussi cette restriction des libertés. Lorsque vous êtes dans les ascenseurs quelque part, vous voyez quelqu'un qui vous dit « vous êtes de la majorité, vous êtes proche de la majorité, voilà, le jour vient où nous vous mettrons hors d'état de nuire. »
Quand Emmanuel est ici, il sait pertinemment qu'il a la clé d'un grand programme, l'élaboration du journal. Il relit tous les articles, il a l'œil sur toutes les différentes étapes de confection du quotidien, car sa vie en dépend.
Lorsque vous êtes sur le champ congolais, d'abord accéder à l'information, c'est sur la tête du client. La presse congolaise, à un moment donné, fonctionne sur base de l'enveloppe qui est déposée sous la table du journaliste. Et là, je le déplore malheureusement. Quant à nous, personnellement, il y en a qui connaissent notre perspicacité. Nous sommes un groupe de presse qui est suivi au grain. Le promoteur lui-même est un responsable au sein de la majorité présidentielle. Il est député national. C'est un homme d'affaires qui voit d'abord aussi ses intérêts politiques, économiques dans ce qu'il fait. Et donc, il est difficile à un moment donné qu'on échappe à son contrôle, mais plutôt que l'on veille de manière à ce qu'il se retrouve satisfait, mais que l'information soit rendue selon les règles de l'art.
Emmanuel Badibanga, dont le sourire laisse deviner les acquis d'une solide éducation familiale et professionnelle, est l'un des colosses du quotidien, l'avenir.
Terminons ce tour du pays par le portrait de Freddy Moulumba, patron du potentiel. Parlons de la question de la liberté de la presse en République démocratique du Congo. Il met en exergue le respect de l'éthique et de la déontologie.
Derrière cette enseigne, bien connue à Kinshasa, s'impose un journaliste à la réputation bien établie, Freddy Moulumba. L'administrateur délégué général du journal Le Potentiel est un symbole ici. Freddy est politologue. Le patron du Potentiel est le fruit d'une longue maturation basée sur d'incessantes analyses. Tout commence lorsqu'il retourne en République démocratique du Congo, après plusieurs années en Belgique, et décide de bouger les lignes.
Quand j'étais étudiant à l'université, à la faculté d'université de Mons en Belgique, j'écrivais déjà dans un journal. En rentrant ici, j'ai pensé que je pouvais contribuer dans l'IDPS dans des temps. Et quand c'est arrivé, j'étais dessus. Après une année, il y a M. Kabongo Malou, qui était rédacteur en chef du journal Le Potentiel, qui est venu me voir. Donc, je suis entré par la porte en quelque sorte. Après ça, je suis passé à la secrétaire générale. Le journal Le Potentiel. Et quand Modeste est parti, je suis devenu administrateur, directeur général. Et après ça, j'ai eu des parts dans le groupe de presse Le Potentiel. Je suis actionnaire pour le moment.
Avec un regard détaché, ce journaliste met en évidence le respect de l'éthique et déontologie dans son engagement professionnel.
Ce travail qu'on fait, ça a quand même une certaine éthique qu'il faut respecter. Donc si vous donnez l'information, vous analysez sans parti pris, même si ça fait mal aux dirigeants, tout comme à d'autres personnes, on ne vous embête pas. Mais quand vous traitez une information biaisée, désorientée, je pense que là, vous aurez des problèmes avec des personnes. Donc, depuis que je suis dans ce métier, je n'ai jamais été inquiété. Jamais. Ni par les pouvoirs, ni par les forces d'argent.
Très ancré dans la réalité politique congolaise, Freddy Moulumba a réussi à conforter sa position de journaliste doublé de patron dans la grande presse, la presse écrite. et la pression lui vient plutôt de l'extérieur lorsqu'il signe et publie ses articles.
La menace vient de l'extérieur. Ça paraît un peu bizarre. Ce sont ceux qui nous donnent des leçons de démocratie, de liberté, qui menacent. Ils n'apprécient pas les discours de la balkanisation. Ils estiment qu'on parle plus loin. Et ils ont fait pression pour qu'on n'en parle pas. Et vous verrez que c'est le potentiel. Le mot balkanisation a disparu. Non, la balkanisation n'existe pas. Donc c'est la seule menace que j'ai eue. Et, de toute façon, dans notre pays, on n'a pas d'autre choix.
Au groupe de presse, le potentiel, même si Freddy Moulumba s'introduisait un jour dans la politique pour gérer le pays, la DG du potentiel demeurera l'empreinte d'une détermination professionnelle à considérer et à respecter.
Nous amorçons maintenant la deuxième partie de cette émission spéciale 3 mai, Journée internationale de la liberté de la presse. Nous allons à présent rejoindre Jean-Louis Miasekouama d'Antena pour ouvrir le débat.
Madame Chantal Canimou, bonjour.
Bonjour.
Encore merci d'être sur ce plateau. Il y a pratiquement 6 à 5 ans, les autorités prenaient justement cette décision, en fait, qui avait déjà été prise, de créer ou de permettre au CESAC de voir le jour. Et selon vous, dans l'histoire du pays, comment jugez-vous justement?
Ce n'est pas une première expérience hein, du pays en termes d'autorité de régulation des médias. Le CESAC a succédé à la haute autorité des médias qui avait été mise en place pendant la transition. Et donc c'était la première expérience de la régulation des médias dans notre pays. L'avènement du CESAC n'est que dans la continuité, dans la mesure où la haute autorité des médias étant une institution de la transition, elle ne pourrait pas continuer à subsister après la transition. Et donc, comme la Constitution le détermine, il fallait mettre en place le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication. Et donc, c'est une suite logique.
Voilà. Et donc, ce Conseil audiovisuel supérieur audiovisuel et la communication a la lourde charge de faire la régulation des médias. Et souvent, on se pose la question... Est-ce facile de faire régulation des médias quand il y a des organes officiels, des organes privés et une foule de multitudes? Comment vous retrouvez dans tout ce bazar audiovisuel?
Bon, écoutez, ce n'est pas un bazar. Hein. Je crois que c'était une nécessité parce que même dans l'exposé des motifs de la loi organique portant composition, attribution et fonctionnement du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, il y est clairement dit qu'au lendemain du lancement du processus de démocratisation dans notre pays, on a assisté à une floraison des médias, mais cette floraison, ce n'était pas seulement une bonne chose pour la démocratie, mais il y a également eu beaucoup de dérapages, et donc il s'est avéré nécessaire de mettre en place une autorité administrative pour pouvoir assurer la régulation de ces médias. Et donc on ne peut pas estimer que c'est un bazar que d'assurer la régulation des médias.
Non,
c'est une nécessité qui est tout à fait normale. Ça existe même dans les plus vieilles démocraties, en dehors des États-Unis, qui régulent d'une autre manière, mais dans toutes les vieilles démocraties, il existe des autorités de régulation dans différents secteurs de la vie nationale. Et donc, étant dans un contexte démocratique avec une flopée des médias, il était absolument nécessaire de mettre en place une autorité administrative pour pouvoir réguler ces médias.
Et justement, avez-vous les moyens de votre politique? Pouvez-vous contraindre les organes de presse en supprimer ou en écarter?
Non, il ne s'agit pas de contraindre. Il s'agit de réguler. Je crois que le terme, assez porteur, on dit réguler. Réguler, c'est pour permettre le bon fonctionnement justement de tous ces médias dans l'intérêt général. Pour nous, il ne s'agit pas de contraindre. Il s'agit d'amener les médias à respecter les dispositions légales et réglementaires qui organisent l'exercice de la liberté de la presse dans notre pays. Et donc, quand on prend des mesures, ce n'est pas nécessairement pour causer du tort ou pour faire du mal, c'est pour amener les médias à respecter les textes réglementaires et légaux qui existent dans notre pays et qui organisent, qui réglementent la vie des médias dans notre pays.
Et justement, dans le domaine des médias, normalement, le maître mot aussi, c'est le professionnalisme. Est-ce que vous avez un mot à dire quand on vous présente la structure, par exemple, dirigeante d'un média, pour juger si les personnes sont aptes ou non à la diriger?
Non. Peut-être, je crois que j'ai omis d'évoquer les moyens. Bon, c'est vrai qu'on est une institution de l'État congolais. C'est l'État congolais qui donne les moyens à toutes les institutions pour leur meilleur fonctionnement. Mais l'État donne les moyens dont il dispose au regard de la mobilisation des ressources, au regard du budget de l'État. Et donc, nous faisons avec ces moyens pour pouvoir assurer la régulation. Et les moyens, c'est pourquoi? C'est pour, par exemple, équiper notre centre de monitoring des médias congolais, parce que c'est l'instrument fondamental qui nous permet de faire de la régulation. Et je voudrais vous dire que la régulation se fait toujours a posteriori et pas a priori. Elle se fait a priori uniquement pour la question de la publicité, telle que l'a disposé le législateur dans la loi organique du Conseil supérieur de l'audiovisuel. La seule régulation que nous faisons a priori, c'est la régulation de la publicité. Mais en ce qui concerne les contenus des médias, la régulation se fait toujours a posteriori, parce qu'il n'est pas question pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication de censurer. Ça sera contre la liberté de la presse, et donc nous faisons a posteriori. C'est pourquoi nous avons besoin d'avoir un centre de monitoring des médias congolais qui nous permette de pouvoir justement suivre, assurer les monitorings des médias congolais et voir si les dispositions légales concernant l'exercice de la liberté de la presse sont respectées, pour vérifier que les opérateurs dans le secteur médiatique respectent le cahier des charges édicté par le gouvernement, parce qu'ils ont signé un contrat avec le gouvernement en ce qui concerne les contenus des médias, et c'est le travail que nous faisons. C'est vrai que les moyens ne sont pas suffisants pour nous permettre aujourd'hui d'acquérir un équipement qui nous permet de faire de la régulation, du monitoring à temps réel, d'enregistrer la cinquantaine des chaînes de TV qui existent, mais autant de radios pour faire la régulation. C'est vrai que les moyens sont minimes. C'est vrai que quand on visite notre centre de monitoring, c'est ridicule. Nous avons reçu dernièrement la visite de la délégation de l'OIF qui est venue faire une évaluation du processus électoral. Bon, c'était à la limite ridicule, notre centre de monitoring, parce que dans beaucoup de pays africains, on s'est équipé de manière, avec des équipements assez fiables qui permettent effectivement de suivre les chaînes de radio et de télévision. Mais nous sommes encore en analogie avec une quinzaine de postes dont une bonne partie ne fonctionne pas toujours, donc c'est pas évident de faire le monitoring dans ces conditions. Mais nous faisons quand même un effort en ciblant, on peut dire que c'est sélectif, mais en ciblant au regard de l'expérience, les médias que nous avons déjà eu à observer, qui dérapent souvent. Et donc, ce sont ces médias-là qui sont suivis de manière permanente, enregistrés le plus longtemps possible pour pouvoir analyser les contenus qui sont diffusés.
Et justement, maintenant, après pratiquement, je crois, 5 ans, 6 ans de fonctionnement, est-ce que vous pensez que les médias ont intégré le fait de la réalité, le CSA qui existe, qu'ils régulent le fonctionnement des médias?
Oui, ils ont intégré, dans la mesure où parfois nous recevons même des coups de fil pour dire voilà, moi je voudrais diffuser telle émission, etc. Est-ce que je peux ou pas? Nous disons non. Nous, notre régulation, c'est pas a posteriori. Nous ne faisons pas la censure. Et donc, avant que vous n'ayez diffusé, nous ne pouvons pas vous demander de diffuser ou de ne pas diffuser. Nous constatons, quand vous diffusez les contenus, si ça respecte la déontologie de l'information, s'il n'y a pas de dérapage, s'il y a des dérapages, alors en ce moment-là, nous allons nous saisir du dossier et entamer une procédure et examiner terminer le dossier tel que le dossier sera instruit par le secrétariat d'instruction. S'il y a des mesures à prendre, s'il y a des actes à prendre, s'il y a des décisions à prendre, c'est alors en ce moment-là que l'Assemblée plénière pourra examiner et décider.
Donc, vous avez dit, en matière de procédure, le dossier est envoyé au secrétariat d'instruction. Et s'il y a des mesures à prendre, s'il examine, nous passons à l'Assemblée plénière. C'est ça la procédure, en fait?
Oui, la procédure, en fait, nous faisons le monitoring, nous recevons des rapports circonstanciels du centre de monitoring qui sont élaborés et rédigés par nos observateurs analystes. Si tout va bien, il n'y a rien à redire. Mais si les rapports circonstanciels nous disent qu'il y a des dérapages, alors en ce moment-là, la procédure commence toujours avec une mise en demeure, avec invitation au directeur de programme ou au directeur de programme accompagné du présentateur de l'émission pour venir présenter les moyens de défense. Et le secrétariat d'instruction va instruire le dossier en qualifiant les faits s'il y a eu des dérapages et en faisant des propositions aux membres de l'Assemblée plénière qui vont examiner et décider après débat et délibération.
Nous allons redresser l'économie du pays.
Chacun de vous recevra un sac de riz.
Ne soyez pas corruptibles.
Le peuple a besoin de l'information.
Si, je sais.
La vraie.
Achetez-moi des jus. Ouais, ça va saigner.
Très chers téléspectateurs, face à moi le président de l'Union de la presse, l'Union nationale de la presse du Congo, Monsieur Kasonga Chilundé, encore merci d'être là et bonjour.
Bonjour.
D'emblée, je vous demanderai comment se porte la corporation, comment se porte l'UNPC?
L'UNPC se porte bien.
Et aujourd'hui, parler de l'UNPC, c'est de parler de combien, par exemple, de journalistes, de professionnels des médias dans le pays?
Aujourd'hui, là, ça veut dire que le processus continue pour la nouvelle année. Jusque 2015, au mois de décembre, nous avions 2800 détenteurs de la carte. Il y avait 1200 formulaires qui étaient en train d'être traités pour délivrer la carte. Donc, aujourd'hui, la presse congolaise peut se targuer d'avoir environ 5000 membres.
D'accord. Et la loi qui est sous examen au Parlement sur l'information a comme fait essayer d'élargir pratiquement l'éventail professionnel en incluant réalisateurs, monteurs, opérateurs de prise de vue. Est-ce une nouveauté ou bien juste une remise à jour?
C'est une nouveauté tout simplement parce que vous savez que la loi qui nous régit jusqu'à présent n'avait pas pris en compte les réalisateurs et les monteurs.
Bien sûr. Et, mais tout cela, justement, on va revenir au nerf de la guerre pour vite traiter déjà ce sujet, passer à d'autres. Il y a, on sait, normalement une aide à la presse. Tous les pays, normalement, font cela, de 2 millions de dollars. S'il faut faire un bilan sur ces aides à la presse, on peut dire que le bilan il est mince, il est maigre, parce que je crois que ni l'UNPC ni les organes de presse n'ont senti l'effet de cette aide ou quelques pièces dans cette réduction de cette aide. Mais qu'en est-il au juste?
Il n'y a même pas de bilan à faire parce que l'aide n'est pas là. On va faire un bilan sur ce qui existe, qui a déjà été entamé et sur base duquel on est en train de cogiter. Mais aujourd'hui, l'aide n'existe pas. Je me rappelle très bien que la loi parle des aides directes et indirectes. La loi de 81, et ces aides ont été reprises à la loi de 96. Mais dommage, jusqu'à ce jour, les arrêtés interministériels d'application de la loi concernant l'aide n'ont jamais été pris. Conséquence, même les 2 millions qui étaient au budget de 2007 qui devaient revenir comme aide que le législateur donnait à la presse. Les 2 millions n'ont jamais été libérés, et puis on les a élagués, je ne sais pas ce qui s'est passé. Et voilà, il y a 2 ans, on a vu le ministre des médias qui appelait les organes de presse, qui donnait 1 000 dollars, 2 000, 500. Bon, on nous dit que C'est une aide symbolique. Une aide symbolique, nous l'avons acceptée comme telle, mais nous estimons qu'à ce niveau, nous n'avons pas besoin d'une aide symbolique, nous avons besoin d'une aide réelle.
Que vous pouvez chiffrer à combien, approximativement?
Elle peut même aller jusqu'à 1 milliard de dollars, parce que nous avons... Le pays est vaste.
Et justement, il faut donner les moyens aux médias. Ça, vous parlez des gouvernants, des gens, des partenaires, donc des gens extérieurs à la corporation, mais la corporation elle-même a-t-elle pas besoin aussi de remettre un peu de l'ordre dans sa
maison ? Mais la corporation elle-même, sur le plan des moyens, parce qu'aujourd'hui nous pleurons, nous disons que le journaliste vit dans une situation précaire. D'où vient la précarité ? La plupart des journalistes ne sont pas payés, ils sont dans des organes de presse, ils sont utilisés et ils ne vivent que de ce que nous avons aujourd'hui, comment on appelle, institué, le coupage. Et il y a même des rédactions qui obligent à ses collaborateurs extérieurs de retrocéder un certain pourcentage de ce coupage à la caisse de la rédaction. Mais c'est un scandale.
Mais il y a un fait que vous avez aussi relevé, le fait, le peu de force qu'a la presse congolaise pour le moment, même par rapport à l'extérieur. Ce sont souvent des correspondants étrangers, des reporters étrangers qui viennent parler de nos problèmes et qui les exposent au monde, même l'information, pendant que nous ne le faisons pas. On parle de nous dans des documentaires faits par des étrangers. Est-ce que quand même, de l'autre côté aussi, c'est vrai que ça dépend des organes de presse, mais est-ce que de l'autre côté aussi, le NPC quand même n'a pas son mot à dire, n'a pas quelque chose à proposer pour que on soit moins dans la défensive, qu'on passe plus à l'offensive?
Mais justement, mais pourquoi ils le font et nous regardons qu'ils sont en train de faire et puis ils partent et ils reviennent? Nous les dénonçons tous les jours. Mais vous savez que le principe est que la liberté ne se donne pas. La liberté s'arrache. Il ne faut pas attendre que un ministre ou un procureur vienne vous dire non, allez, la liberté, la prenez-la. Non. Il faut donner l'information. Quelle que soit-elle, il faut donner l'information. Mais avec professionnalisme, en respectant la déontologie. Si vous le faites, même si on vous arrête, parce que le problème que nous avons ici, c'est la peur. Mais si vous avez l'information et vous avez tous les éléments qu'il faut, balancez votre information.
Ah bon?
En appréciant, vous êtes votre seul juge. Oui. C'est ça qu'il faut.
Et justement, vous avez parlé des assassinats, des arrestations. Normalement, on parle tellement de modernité, de standards internationaux. Il serait quand même que bien que même les journalistes ne soient plus... ils ont préparé cette sauce-là d'arrestation, intimidation, mais qu'ils, qu'en cas de faute professionnelle, soient jugés par leur père. Et que la loi dit bien que la loi qui est au Parlement, dans la table du Parlement, dit bien qu'on saisit d'abord les autorités de régulation et d'autorégulation avant de saisir les cours.
C'est un combat de tous les jours. Et je peux m'estimer heureux qu'une grande partie de nos autorités aient compris cela. Je vous dis que d'une manière régulière et permanente, nos autorités ne vont plus dans les tribunaux civils, ils viennent à la discipline, ils viennent à l'UNPC et nous sanctionnons. C'est ça. Alors, vous n'attendez pas qu'ils viennent vous... Ceux qui tuent, ceux qui emprisonnent, ils le font par méchanceté, même par abus de pouvoir. Vous avez un pouvoir, vous estimez que moi je peux le faire. Et demain, quand vous perdez ce pouvoir-là, vous devenez quoi?
Simple citoyen.
Ah ben voilà. Nous tendons vers les élections. Et vous savez que c'est une période très dangereuse, principalement pour le journaliste. Parce que c'est lui qui doit entendre ce que disent les politiques pour le transmettre à la population. Et si le politique s'attaque à un autre politique et que le journaliste l'amplifie, mais il sait que les fanatiques de l'autre peuvent s'attaquer aux fanatiques de celui qui est attaqué. À partir de ce moment-là, qu'est-ce qu'il a fait? Il a brûlé la case. C'est ainsi qu'on dit, il faut qu'il traite l'information avec responsabilité, surtout en période de crise.
Monsieur le Président de l'UNPC, c'était un plaisir d'être avec vous. Et nous avons compris le rôle des médias au niveau de développement politique et social de ces pays. Nous vous remercions d'avoir répondu à cette invitation, Jean-Louis, Julie et moi.
Merci beaucoup, madame, pour cette opportunité que vous m'avez offerte, surtout en ce jour où nous célébrons, vous et moi, la Journée mondiale de la liberté de la presse. Et je crois que il faut de temps en temps nous arrêter pour parler de nous. Parce que sur les 365 jours, nous ne parlons que des autres. Nous les vantons. Et parfois, quand ils montent au sommet de la pyramide, ils nous oublient, ils chient sur nous. Mais nous devons, à un moment donné, prendre 3-4 jours. Pourquoi pas 10 jours sur les 365 jours, parler de nous. Essayer de décortiquer notre situation pour que nous ayons un mieux-être demain. Sans nous, personne d'autre ne peut parler de nous. Il n'y a que nous qui pouvons nous battre pour nous-mêmes et qui pouvons changer notre situation. À défaut, nous sommes foutus. Merci beaucoup, madame, pour cette opportunité et je suis toujours à votre disponibilité.
Le droit de dire et d'imprimer ce que l'on pense est le droit de tout homme libre et ne doit pas être aliéné. On ne saurait le lui priver sans exercer la tyrannie.